lancement de la vidéo en direct. On y arrive. Voilà. Ainsi donc, frères, Romains 8, 12. Romains chapitre 8, verset 12. Ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs, mais non de la chair. Ou bien nous sommes plus débiteurs de la chair, tout simplement. Pour vivre encore selon la chair. On s'arrête là. Nous sommes plus débiteurs de la chair. Débiteur, être débiteur, c'est-à-dire que vous avez une dette envers quelqu'un. Hein? Et Paul dit, nous sommes débiteurs, mais non de la chair. On verra plus tard au chapitre 13, je crois, que Paul dit, ne devez rien les uns aux autres, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. D'accord? Mais, en tout cas, il dit, on n'est pas débiteur de la chair pour vivre encore selon la chair. C'est-à-dire que, étant donné que je suis mort, eh bien, la chair ne peut plus rien réclamer. Quelqu'un qui est mort, il ne va pas au magasin pour s'acheter quelque chose. Il ne va pas réclamer quoi que ce soit. D'accord? Il n'a pas de carnet de chèque, exactement. Hein? Donc, vous n'êtes plus débiteur. Vous ne devez. Donc, quand la chair vous réclame, j'aimerais une relation comme ceci, comme cela, j'aimerais de l'argent, j'aimerais ceci et cela. Elle a, vous ne lui devez rien. Amen. Vous ne devez rien à votre chair. Voilà, voilà l'idée. Si vous vivez selon la chair, c'est-à-dire que si vous croyez qu'elle a des droits et que vous lui obéissez, c'est ça, vivre selon la chair, vous allez mourir. Celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption. Galates chapitre 6, je crois. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Donc vous voyez qu'ici, il passe de la chair aux actions du corps. C'est-à-dire que, il faut pas... Bien sûr, la chair, ça peut être les pensées, ça peut être... Il n'y a pas que le corps. Mais si Paul précise les actions du corps ou parfois le péché qui est dans mes membres, c'est qu'il y a aussi tous ces désirs qui touchent aussi notre corps, qui sont liés au corps, vous voyez ? C'est une réalité. Si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. On ne les fait pas mourir, donc on ne crucifie pas la chair par nos propres forces, mais par le Saint-Esprit. Au moment où je marche par l'esprit, il y a, comme tu disais dans ton témoignage pendant la pause, il y a ce moment où c'est difficile, où c'est un déchirement, vous voyez ? Mais si j'accepte de mourir à ce péché-là précis, parce que je m'appuie sur Saint-Esprit, tout à coup, je respire la victoire, l'esprit de vie, la loi de l'esprit de vie a pris le dessus et c'est bon, vous voyez ? Mais sur le moment, c'est une mort. À chaque fois, c'est une mort. Donc c'est par l'esprit que je fais mourir. Quand il est dit par l'esprit je fais mourir, ça veut dire que je ne cherche pas, écoutez bien, je ne cherche pas à avoir la puissance de l'esprit en me mortifiant, voyez, en me créant toute une religion, en me disant plus je vais lire la Bible, plus je vais avoir l'esprit. Non, non, je cherche l'esprit parce que c'est lui qui va m'aider à faire mourir la chair. Vous suivez la différence? Et souvent, les chrétiens, ils vont dans la mauvaise direction. Ils vont dans la direction des œuvres, ce que je dois faire, en se disant comme ça, j'aurai plus d'esprit. Et puis, ils s'épuisent. Mais plutôt que ça, allez dans la direction de l'esprit. Remplissez-vous par la présence de Dieu, la prière, la louange, l'adoration, le parler en langue, d'accord? Marchez par l'esprit, faites, que le Saint-Esprit soit à l'aise ou et entrer en relation avec le Saint-Esprit, toujours plus, et vous verrez qu'à ce moment-là, vous n'aurez pas de peine à faire mourir les actions de la chair. Amen. Vous avez remarqué que j'avais un ami comme ça qui était électricien, mais enfin, il faisait du bâtiment. Et puis, il me disait qu'il coulait une dalle toute la journée, ce qui est un travail très dur. Et le soir, il avait Sa chair réclamait du repos. Assieds-toi devant la télévision, prends ta petite bière dans le frigo, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce qu'il faisait, c'est que vite, il n'avait que le temps de prendre la douche, il courait à la réunion de prière. D'accord? Son corps lui faisait mal, il était fatigué. Mais quand on arrivait à la fin de la réunion de prière, la fatigue avait complètement disparu. Vous voyez? Quand je vais dans la direction de l'esprit, la loi de l'esprit de vie triomphe, même sur le plan physique, vous voyez, de tous ces désirs de la chair. Même sur le plan physique, vous verrez la différence. Vous pouvez jeûner sans difficulté quand c'est conduit par l'esprit, par exemple. Hein? Donc, si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, rappelez-vous que c'est par l'esprit. Sinon, on rentre dans l'ascétisme religieux. Vous allez vous enfermer dans un monastère, vous allez faire je sais pas trop quoi. Et puis, c'est pas par l'esprit ça. Vous comprenez? Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Verset 14. Tous ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils de Dieu. Donc pour avoir cette relation de fils, il faut être conduit par l'Esprit de Dieu. Maintenant, il introduit ici une nouvelle notion, cette notion de fils, qui est très importante et qui est aussi soulignée dans l'Épître aux Galates. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude ou d'esclavage pour être encore dans la crainte, ou pour être de nouveau dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Amen. Donc, on va essayer de. Ça, c'est un verset qui est très très important. Verset 14, 15. Il y a, si vous voulez, vous pourriez dire, ok, mais comment je fais pour marcher par l'esprit? Quand tu dis par l'esprit, ça veut dire quoi concrètement? Et Paul te donne la réponse ici. Il parle d'être, d'avoir une relation de fils, voyez, avec le Père. C'est comme ça qu'on marche par l'esprit, voyez. Et c'est ce vers quoi l'esprit nous fait tendre.
C'est la relation.
C'est la relation avec le Père, par le Saint-Esprit. En fait. Dans ces deux versets, 14-15, enfin 13-14-15, vous avez le secret de la vie chrétienne. Hein? Vous avez le secret de la vie chrétienne. J'arrête de boire. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Si vous marchez par l'Esprit, si vous êtes conduit par l'Esprit, vous êtes dans une relation avec le Père, une relation de fils. Amen. Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclave pour être dans la crainte. Jésus dit à ses disciples, je ne vous appelle plus esclave ou serviteur, je vous ai appelé ami, parce que je vous ai dit tout ce que j'ai appris de mon Père. Hein? Donc, et puis il parle de son père. Il dit, en fait, j'aimerais que vous ayez la même relation que moi j'ai avec mon père, que vous aussi vous ayez cette relation avec moi et avec mon père. Vous suivez? Par le Saint-Esprit. Là, on est dans Jean chapitre 15. Maintenant, je reviens à Romains 8, verset 15. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. La crainte dont il parle ici, c'est. Comment dire? C'est la force motrice de la chair. D'accord? Dans la chair, tout est basé sur la crainte. Dans l'esprit, tout est basé sur la foi. La crainte est l'opposé de la foi. Vous voyez? La peur est l'opposé de la foi. La chair marche par la peur, l'esprit marche par la foi. Ok? Et donc l'esprit de servitude, vous met dans la crainte. La crainte d'être frappé, la crainte de mal faire, la crainte de... Vous voyez, c'est la crainte, c'est l'esclavage de la loi. On ne fait jamais assez bien. Et vous avez des églises entières qui vivent sous la crainte. Et des pasteurs qui maintiennent leur église dans une forme d'esclavage. Parce qu'ils ne prêchent pas la grâce, et ce n'est pas qu'une question de la prêcher, mais parce qu'ils ne vivent pas la grâce. Vous
savez?
Alors oui, il y a une branche dure des adventistes qui est un peu comme ça, effectivement. Donc on est tout le temps dans la crainte de mal faire. On n'a jamais fait assez bien. Vous suivez? C'est un esprit de servitude, un esprit d'esclavage. C'est un esprit qui vous contrôle, la crainte. On est contrôlé par la crainte. Celui qui a peur, il est contrôlé par sa peur. Il ne sait pas comment faire pour... Vous voyez, je veux dire, c'est terrible la peur. Hein? Et il dit non, vous avez reçu un esprit d'adoption. Par lequel nous crions Abba, Père. L'enfant, quand il est entre ses parents, il n'a pas peur. Vous voyez? Il n'a pas peur. D'ailleurs, un enfant, un petit garçon qui parle à un autre petit garçon, et quand il commence à dire « Moi, je suis plus fort que toi », il parle de leur père. « Mon père, il est plus grand que le tien, il est plus fort que le tien, tu vas voir. » Vous voyez? Ils ont confiance dans leur père, et c'est leur... Et donc, ils sont droits, ils sont... Ils se redressent, ils ont peur de rien parce qu'ils savent qu'ils ont un père. C'est pas vrai?
Moi, mon père est gendarme.
Ton père est gendarme, bah voilà. Hein?
C'est ça, c'est aussi.
Hein? Mon père, il est gendarme. Alors oui, là, ça fait peur à tout le monde. Ok. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. C'est-à-dire que l'esprit, comme dit Galates chapitre 4, l'esprit en nous crie Abba, Père. Amen. C'est l'esprit d'adoption. C'est lui qui fait de nous des fils et des filles. Hein? Mais au sens spirituel des fils. L'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Abba, ça veut dire, c'est intéressant, je lisais la version de Luther ce matin, en allemand, Liebe Vater, ça veut dire cher père. Hein, cher père, c'est comme ça qu'il le traduit. Donc c'est une expression de grande affection et de grand respect. C'est plus que père, c'est cher père. Hein. Père bien-aimé. Vous voyez, c'est une relation d'amour, c'est une relation de confiance, c'est une relation d'adoption. Adoption parce que on n'était pas dans cette relation avant, mais on entre dans cette relation. Et c'est Jésus qui nous fait entrer dans cette relation. D'accord? Verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est ce qu'on appelle le témoignage intérieur du Saint-Esprit, qui nous affirme que nos péchés sont pardonnés, que nous sommes enfants de Dieu, que Dieu est notre Père. Et ça, c'est là, c'est sur cette révélation que se bâtit toute la foi chrétienne. Amen. Si on n'a pas cette révélation, si on n'a pas ce témoignage intérieur du Saint-Esprit, on est tout le temps dans la crainte. On n'est jamais sûr. On n'est pas sûr d'être sauvé. On n'est pas sûr que Dieu nous aime. On n'est sûr de rien. Donc on fait plein de choses pour essayer de se faire accepter. L'orphelin, il est insécurisé, donc il cherche à se faire accepter. Comprenez? L'esprit d'orphelin. Et donc, il va faire tout à l'envers parce qu'il croit qu'il doit toujours faire quelque chose de plus pour être accepté. Tandis que le fils, il est en paix. Ce qu'il fait, il le fait par reconnaissance, il le fait par amour et non pas pour chercher à être accepté parce qu'il sait qu'il est accepté d'office, d'entrée de jeu. Il est accepté parce qu'il est un fils. Amen. Le fils prodigue, dans la parabole de Luc chapitre 15, il prend son héritage, il le réclame, et son père, étonnamment, le lui laisse. Ça voulait dire qu'il avait tué son père, symboliquement. Mais son père le laisse faire. Son père le laisse faire. D'ailleurs, quelqu'un à qui vous demandez l'héritage avant sa mort, dans sa tête, il se dit, bah, autant que je meure. Autant que je meure. On le voit très facilement aujourd'hui. Hein. Donc c'est ce que fait le fils prodigue. Donc déjà, ça, c'est mal parti dans la relation. Et puis ensuite, il revient. Et certains disent, parce que la Bible dit qu'il est rentré en lui-même et qu'il s'est dit « chez mon père, donc je vais retourner chez mon père parce que là, c'est terrible. » Certains disent « ça, c'est la repentance. » Ce n'est pas la repentance. C'est le regret, d'accord ? C'est le bon sens, mais ce n'est pas la repentance. La vraie repentance, elle arrive quand ? Le fils, il retourne vers son père, d'accord ? Mais dans sa tête, il s'est fait un petit discours et il a dit « bon, quand je verrai mon père, je lui dirai « je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Prends-moi comme l'un de tes serviteurs. » En fait, ce garçon, il n'a jamais été un fils. En termes de relation. Vous suivez ? Il n'a jamais été un fils. Il n'a jamais compris le Père. Il n'a jamais eu cette révélation, l'amour du Père. Il ne la connaît pas. Il a vécu pour lui-même, coupé de cet amour du Père. Vous voyez ? Et donc, quand il arrive avec son discours tout préparé, et que son Père, au lieu de lui mettre une bastonnade qu'il aurait bien méritée, d'accord ? Le prend dans ses bras et dit tout de suite, allez chercher la plus belle robe. Vite, mettez un anneau à son doigt, les sandales à ses pieds, tuez le veau gras, on va faire la fête, etc. C'est là, dans les bras de son père, qu'est la vraie repentance. Parce qu'il réalise, voyez, qui est son père et l'amour de son père. Et qu'est-ce qu'il a raté? Et qu'est-ce qu'il a fait de partir comme ça? Vous voyez, je veux dire. Donc c'est là que vraiment la repentance se met en place. Parce que donc si vous voulez, ce témoignage intérieur du Saint-Esprit, que Dieu est notre Père, il n'est pas là. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour juger le monde, je suis venu pour sauver le monde. Ça veut tout dire. Oui, Dieu va juger le monde. Mais quand Jésus est venu sur la terre, il est venu pour sauver le monde. Ok ? Et lui dire, vous avez un Père, vous vivez comme des orphelins, et ce qui vous fait faire toutes sortes de, ce qui vous pousse à faire toutes sortes d'erreurs, de péchés et de choses dramatiques. Mais si vous pouviez connaître Dieu comme votre Père, vous reviendriez à lui en toute confiance. Et lui vous donnerait cette robe de justice. Il vous donnerait ce statut de fils. Vous voyez ? Les esclaves étaient nu-pieds. En Orient, ils étaient nu-pieds. C'était la marque de l'esclavage, c'est que tu n'as pas de chaussures. Et il dit tout de suite, mettez-lui des sandales aux pieds. C'est plus un esclave, c'est un fils. Amen. Donc nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. C'est très important. Et donc, si je remonte au verset 14, si on prend, si vous voulez, parfois quand vous avez un texte, vous le remontez de la fin vers le début et vous le comprenez mieux. Prenez le verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ça, c'est la révélation. Amen. À partir de là, verset 15, on n'est plus dans la crainte, d'accord, mais on crie Abba Père. On est dans la relation avec le Père. On est fils dans le royaume. Maintenant, regardez verset 14. Et on est conduit par cet esprit du Père qui crie en nous Abba Père. On est conduit par l'esprit parce qu'on va vivre en tant que fils et non plus en tant qu'esclave. Et donc, on va découvrir la marche par l'esprit. Donc, tout commence par le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Tu n'es pas un esclave, tu es un fils. Amen. Tu es pardonné, tu es aimé. Tes péchés sont pardonnés. Et souvent, Jésus disait ça. Hein? Il disait, celui-ci est aussi un fils d'Abraham, Zachée. Regardez avec moi dans Luc, chapitre 19, je crois. Au début du chapitre 19. Luc 19, verset 1. Jésus entra dans Jéricho et traversa la ville. Alors un homme du nom de Zachée, qui était chef des péagers, donc c'était les collecteurs d'impôts qui étaient mal aimés des Juifs, parce qu'ils collaboraient avec les Romains, qui étaient riches, cherchaient à voir qui était Jésus, mais ils ne le pouvaient pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant, monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Quel honneur! Quel honneur que Jésus vous dise « Il faut que je vienne chez toi aujourd'hui, je m'invite chez toi. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Lui voulait juste voir Jésus et Jésus carrément s'invite chez lui. Pour Zachée, c'est le pompon. Hein. Il est content là. Il est content parce que, en fait, il cherchait à voir qui était Jésus. Vous voyez ? Il n'était pas un fils. Comment dire ? C'était un orphelin, ce garçon-là, dans son esprit. Il avait un esprit d'orphelin. Et donc, il cherchait un père. Il cherchait cette relation. Il cherchait à voir qui était Jésus. Il voulait cette relation avec Jésus. Mais il ne pouvait pas l'avoir. Hein? Et donc, Zachée descend de son arbre, il le reçoit avec joie. À cette vue, tous murmuraient et disaient, ça c'est toute la, vous voyez, toute la, le légalisme hein, ambiant, il est allé loger chez un homme pécheur. Hein? C'est tous ceux qui filtrent la mouche et cavalent le chameau qui sont là, qui trouvent ça absolument insupportable. Comment il aurait quand même pu venir chez moi? Il va chez ce type-là, qui a un roublard de chez Roublard, il nous a tous roulé dans la farine, et c'est chez lui qu'il va. Non, mais c'est pas possible. Mais Zachée, debout devant le Seigneur. Vous voyez, on peut vivre devant les hommes, on peut vivre devant Dieu, ça fait la grande différence. Lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui avait pas dicté ça. Vous remarquez bien. Jésus lui a pas imposé quoi que ce soit. Il a juste dit, je viens manger chez toi. Nous, on prend quelqu'un, on lui dit, voilà, maintenant, il faut que tu fasses ça, 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 ça. Mais il n'y a pas la relation. Donc, on leur met un joug qu'on n'est pas capable nous-mêmes de porter et qu'on leur impose de porter. Ça ne marche pas comme ça. Vous voyez ? Jésus lui dit, aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison parce que, écoutez bien, celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Vous voyez ? Et donc, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et donc, il le rétablit dans sa relation de fils. Vous voyez, c'est très important. Et je crois que dans Luc chapitre 8, il y a le même genre de déclaration par rapport à la femme qui avait une perte de sang. Lorsqu'il dit à cette femme, verset 48, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Amen. Vous voyez, quand la femme se voit découverte, parce qu'elle a touché le vêtement de Jésus, elle a été guérie instantanément. On pourrait dire qu'elle a téléchargé sa guérison de manière anonyme. Ok ? Mais Jésus ne veut pas la laisser repartir avec sa guérison physique sans qu'elle soit guérie dans son cœur. Parce que sa maladie l'avait exclue de la communauté. Vous voyez ? Elle était isolée. Elle était repoussée. Elle n'osait pas se montrer en public. Le péché vous isole. Le péché vous fait honte. Ok ? Et donc, il l'appelle. Il dit « Quelqu'un m'a touché ». Elle est obligée de se montrer devant tout le monde. Vous voyez ? Et puis comme à l'époque, c'était un peu comme les grands villages, tout le monde savait tout sur tout le monde, c'était pas facile pour elle. Et Jésus la rétablit en une seule phrase. « Ma fille ». C'est bon. Si Jésus lui dit « Ma fille », c'est bon. Elle risque plus rien. Vous comprenez ? Elle est rétablie dans la relation. Donc l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est important ça. Est-ce que vous êtes des orphelins dans la maison du Père ou est-ce que vous êtes des fils et des filles ? C'est ça la question. Or, verset 17, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. Et donc, Paul va très vite dans sa pensée, il faut le suivre. Hein. On était dans la révélation de ce que d'être un fils, et puis je vous parlais tout à l'heure du fils prodigue avec l'histoire de l'héritage, et cette affaire d'héritage est très importante. C'est très important. Pas seulement sur le plan humain, mais sur le plan spirituel, sur le plan, si vous voulez, par exemple de la parabole des vignerons, quand Jésus dit aux juifs religieux, il leur dit, écoutez, je vais vous raconter une histoire. Hein. C'est un homme qui avait une vigne, il était propriétaire. Il a affermé sa vigne à des vignerons, qui devaient donc s'occuper, qui étaient payés pour s'occuper de la vigne. Et puis, à la récolte, il devait avoir, la récolte était pour le propriétaire. Voyez. Mais les vignerons, quand le propriétaire envoie des serviteurs pour avoir la récolte, parce qu'à l'époque, ce n'était pas financier, c'était en nature, tout ça. Eh bien, ils refusent de leur donner la récolte. D'accord ? Ils battent les serviteurs. Finalement, le propriétaire envoie son propre fils en disant, lui, au moins, ils vont l'écouter. Et il tue le fils en disant, comme ça, la vigne nous appartiendra. On aura l'héritage. Vous voyez ? Donc, il y a un problème d'héritage. Et qu'est-ce qui contrôle l'Église ? Est-ce que c'est le pasteur un tel ? Est-ce que c'est la dénomination un tel ? Ou est-ce que c'est Saint-Esprit qui contrôle l'Église ? C'est Saint-Esprit, non ? En tout cas, qui est censé être le Seigneur de l'Église. Ok ? C'est pas nous ? Et donc, l'héritage, très important, de comprendre que si nous sommes enfants, si nous sommes en Jésus-Christ, voyez, si nous sommes associés avec lui dans l'amour du Père, on hérite avec lui. Voyez, on est co-héritier. Donc on n'hérite pas à sa place. On n'a pas besoin de faire comme les vignerons qui ont tué le fils. Vous suivez? Ça, c'est la chair qui veut tout pour elle. Mais dans l'esprit, on meurt à tout ce qui est de la chair, d'accord, et on ressuscite dans une vie nouvelle où on est co-héritier avec Christ. Donc tout ce qui est à moi est à toi, tout ce qui est à toi est à moi, c'est comme ça que Jésus parle avec son Père, et c'est comme ça qu'il nous parle. L'esprit, je vous enverrai mon esprit, il prendra de ce qui est à moi et vous le donnera, donc on est co-héritier. Ok, on est dans cette relation communautaire. Communautaire. On est co-héritier. Le mot, le petit mot co, C-O, là, il est très important. Et Paul va même plus loin dans Éphésiens chapitre 3. Avec moi dans Éphésiens 3. Verset 5. Éphésiens 3, 5, mais on reste bien sûr là, on est toujours dans Romains chapitre 8. Hein. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des fils des hommes dans les autres générations. On est dans Éphésiens 3, 5, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Et c'est quoi ce mystère donc ? Les païens, voilà, verset 6, vous savez, il y a donc Éphésiens 3, 6. Là, en un verset, Paul comme résume ce qui pour lui est la chose la plus glorieuse qui existe dans l'Évangile. Les païens, ou si vous voulez, les nations, ceux qui étaient privés de droit de cité en Israël, qui étaient sans Dieu dans le monde, qui étaient, voyez, je veux dire, qui étaient perdus, les païens ont un même héritage. En fait, ils sont co-héritiers, littéralement. Ils sont co-corps, littéralement, et ils sont co-promesses en Jésus-Christ. Co avec qui ? Ils sont héritiers avec qui ? Avec Israël. D'accord ? On est co-héritier avec Israël. On est co-héritier avec le fils aîné. Donc, c'est ce que Paul dit ici dans Romains chapitre 8 quand il dit qu'on est co-héritier avec Christ. Donc, on est au même niveau que Christ et aussi on est au même niveau que Israël. Israël, c'est le peuple, c'était le peuple héritier, Oui, je veux dire, qui avait l'héritage du monde, puisque Dieu avait promis à Abraham l'héritage du monde. On est fils d'Abraham. On a cet héritage avec Christ, par Jésus-Christ. Bien. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Waouh. On n'est pas juste, parce que si vous, nous, on est dans une génération psychologique. Donc on pense toujours à la relation, l'affection, l'amour du père, l'amour du père, l'amour du père. Très bien. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la dignité de fils, le statut de fils, l'héritage. Vous comprenez ce que je veux dire? Si toutefois, Paul ajoute, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. Et là, il introduit quelque chose dont on a déjà parlé dans Romains chapitre 5, il introduit la notion de temps dans le salut. D'accord? C'est-à-dire que il y a le salut qui est accompli par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, ça c'est fait. Et puis il y a le salut au moment de la résurrection des corps qu'on attend. On est sauvé en espérance. On est déjà sauvé puis on est sauvé en espérance. C'est déjà et pas encore, en même temps. Et entre deux, il y a des souffrances, il y a des persécutions. Il y a un chemin à parcourir. Vous voyez? Donc il dit oui, on est héritier, d'accord, mais il y a aussi un chemin de souffrance. C'est pour ça qu'il dit si toutefois nous souffrons avec lui. Et on l'avait lu, mais je le relis maintenant dans la première épître de Pierre. Donc c'est des choses dont on a déjà parlé, donc comme ça on pourrait aller un peu plus vite. Mais c'est tellement important et c'est tellement peu enseigné de nos jours, étonnamment. De nos jours, on insiste énormément sur le salut présent. Maintenant, t'as tout, c'est bon. T'es guéri, t'es sauvé, t'es ceci, t'es cela et tout. Très bien, t'es béni, t'es formidable. La souffrance, on passe un peu à côté. C'est pas normal que tu souffres. Enfin, quand même, t'es chrétien. Mais non, mais la Bible dit l'inverse. C'est normal que tu souffres. Si toutefois nous souffrons avec lui. Okay. Il y a des souffrances, il y a des persécutions, il y a des épreuves qui font partie du contrat, du lot. Regardez avec moi dans 1 Pierre. Verset 3 du chapitre 1. Béni soit le Dieu et Père. Donc 1 Pierre 1, 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. C'est 1 Pierre, c'est vers la fin, c'est... juste un peu avant l'Apocalypse. Avant Jean, quand même. Avant les épîtres de Jean, juste avant. D'accord? Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés, ça c'est la nouvelle naissance, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, la vie nouvelle en Jésus-Christ, la loi de l'esprit de vie, vous vous rappelez de ça? Romains 8, verset 2, Romains 8, verset 11. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchi la loi du péché et de la mort. Donc nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour une espérance vivante. C'est-à-dire, on a l'espérance, on est sauvé en espérance parce qu'on sait que Jésus-Christ revient nous chercher, on aura un nouveau corps, etc. etc. Mais cette espérance, elle est vivante parce qu'elle est déjà en nous. On a déjà les arts de l'esprit, si vous préférez. Pour un héritage. C'est ce qu'on disait dans Romains chapitre 8, verset 17, co-héritier avec Christ. Un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, qui vous est réservé dans les cieux, à vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est-à-dire que c'est un salut à venir, même s'il est déjà accompli en Jésus-Christ. Vous en tressaillez d'allégresse, verset 6. Quoique, si toutefois, dit Paul dans Romains 8, 17, quoique vous soyez maintenant, pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligé par diverses épreuves, afin que votre foi éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable cependant éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Et donc, si vous lisez maintenant en parallèle Romains 8, verset 18, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure, Romains 8, 18, entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir, sujet de louange et de gloire lorsque Jésus-Christ apparaîtra, hein, la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Donc c'est exactement le même message. Pierre, Paul, ils ont le même message. Et c'est un message qui est oublié très souvent aujourd'hui. Très souvent. On parle du salut présent et on a oublié le salut futur. On n'en parle pas. La glorification, la résurrection des corps, le fait que Jésus vienne nous chercher, la souffrance entre les deux venus Jésus-Christ. On n'en parle plus de ça. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une génération qui ne souffre pas, en tout cas en Occident. Tout va bien dans le meilleur des mondes. On a à manger tous les jours, on peut manger 3 fois par jour, même 5 fois par jour si on a envie. On a tout à disposition. Et donc cette notion de souffrance, d'attente, d'espérance, vous savez, vous cliquez, je me rappelle quand on avait les ordinateurs au début, quand vous faisiez n'importe quelle opération sur votre ordinateur, il fallait attendre 2-3 minutes dans votre écran, et puis ça ramait, c'était normal. Aujourd'hui, si ça rame plus d'une demi-seconde, vous tapez sur la table, non mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'il a sur l'ordinateur? Vous voyez? Et votre ordinateur, il fait des choses extraordinaires. Vous avez des photos qui passent, qui étaient quelqu'un qui est aux États-Unis, qui a pris une photo, et elle arrive sur votre ordinateur en quelques fractions de seconde. Et puis, on trouve que c'est encore un peu lent. Et puis, quand on veut la G4, la 4G, pardon, la 5G, la 6G, la 7G, la je ne sais pas quoi. Et comme on est dans la 4G, on ne comprend pas ce que dit Paul ici. Si toutefois, vous souffrez en attendant, salut en espérance, on ne sait pas ce que ça veut dire. Parce que nous, c'est des fractions de secondes. Hein? Quand Pierre dit « un peu de temps » dans la première épître de Pierre, « puisqu'il le faut pour un peu de temps ». Attendez, un peu de temps, ça peut durer des années. Hein? Mais pour lui, c'est un peu de temps. Vous suivez? J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure, verset 18, entre les souffrances, écoutez bien, du temps présent. Il y a un temps présent, d'accord? Mais ce temps présent, il pèse pas lourd par rapport à l'éternité. Il faut comprendre ça. Si on vit que pour le temps présent, alors on vit pour la retraite, on vit pour le compte en banque, on vit pour la maison sur la Côte d'Azur, si possible en pierre taillée, la vigne, le figuier, l'olivier. On sait de quoi on parle, nous, à Marseille. Hein? Mais si je vis selon Romains 8, 18, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous.
On le ressent.
On le ressent. Amen.
Moi, j'ai ressenti. Amen. Que toutes les épreuves.
Ouais. Tu sais qu'il y a un poids de gloire qui t'attend. Ouais. Hein? Amen.
Cet esprit-là.
Alléluia. Et c'est ça qui fait la différence. Vous voyez, c'est ça qui fait la différence. Parce que le Saint-Esprit témoigne à notre esprit. Tu es l'enfant du Père, et puis non seulement tu es l'enfant du Père, mais tu soupires après ton domicile céleste, après cette gloire céleste, ce poids de gloire. Tu sais qu'il y a quelque chose qui t'est réservé, qui est bien plus grand, extraordinaire, que toutes les petites humiliations du temps présent. Vous voyez, je veux dire.
J'ai pensé surtout beaucoup à Marie-Alice Cardon, parce
que j'ai perdu. Oui, les deux.
Les deux, ouais. Et j'étais certaine qu'ils étaient,
amen,
qu'ils étaient sauvés.
Ouais.
J'étais certaine.
Ouais.
Donc je pense à ce qu'ils vivaient.
Exactement. Quand vous avez quelqu'un, vous perdez un être cher, vous savez où est-ce qu'il est, et vous voyez les choses complètement différemment. Verset 19, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création était soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec une espérance. Cette même création sera libérée de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. C'est quoi cette histoire de création? C'est Romains 8, versets 19 à 21. Et puis ensuite, il y a les versets suivants, mais on va juste prendre 19 à 21, parce que, en fait, quand il parle de la création, c'est la création. C'est tout le monde présent dans lequel on vit. La terre, la lune, les étoiles, la mer, les poissons, les êtres humains, la création présente, d'accord? Ce que Dieu a créé. Et qui est décrit dans Genèse chapitre 1. Cette création, elle attend avec un ardent désir la révélation des fils. Pourquoi? Parce qu'elle était soumise à la vanité du péché. C'est qui a soumis la création à la vanité du péché? C'est Adam, quand il a abdiqué du fait qu'il devait régner sur la terre et qu'il a laissé le diable régner à sa place. Donc elle a été soumise à la vanité par la faute d'Adam et Ève. Okay? Et c'est pour ça que Jean peut dire, dans la fin de sa première épître, le monde entier est sous la puissance du malin. D'accord? Donc la création est soumise à la vanité, à cause du péché qu'on a laissé entrer, que nos pères, que nos parents, nos premiers parents ont laissé entrer. D'accord? Mais, rappelez-vous Romains chapitre 5, la fin du chapitre 5. Si par un seul homme, le péché est entré dans le monde, d'accord? Et par le péché, la mort, etc. Eh bien, de même, par le deuxième Adam, ou le nouvel Adam, Jésus, la grâce, on peut régner par la grâce, vous voyez, et la justification s'étend à tous les hommes. Vous vous rappelez de ça? Eh bien, c'est comme si Paul fait un rappel rapide ici, de Romains chapitre 5, quand il dit « La création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui y a soumis, c'est le premier Adam, d'accord, qui a fait ça, avec une espérance, cette même création sera libérée de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. » C'est-à-dire que nous, sous forme de prémices, sous forme d'acompte, on vit déjà cette liberté glorieuse. Alléluia. Puisqu'on connaît la liberté en Jésus-Christ. La nouvelle création est déjà en nous. Mais cette nouvelle création, eh bien, elle sera en fait accomplie à la fin de toute chose, lorsque Christ remettra le royaume entre les mains de son Père, qu'il y aura des nouveaux cieux et une nouvelle terre, comme l'Apocalypse le décrit. Donc nous, on vit, si vous voulez, en avant-première, nous on est dans l'avant-première, mais le film sera tourné vraiment pour tout le monde à la fin des temps. Vous suivez? Mais nous on a l'avant-première. On a déjà l'esprit de résurrection. On a déjà la nouvelle création en nous. Et la Bible dit du reste dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et donc la création, qu'est-ce qu'elle attend? Elle soupire après cette révélation des fils de Dieu, parce qu'elle-même, elle veut être libérée de la corruption. Et un des signes de cette corruption qui est due au péché, c'est ce qu'on appelle en physique le deuxième principe de la thermodynamique. C'est quoi? C'est qu'on s'aperçoit que tout va dans le sens de l'usure. L'énergie, par exemple, si vous avez de l'énergie électrique, les fils électriques chauffent. Donc il y a une déperdition d'énergie constante partout. Vous voyez? Le soleil petit à petit se refroidit. On sait qu'un jour il va s'éteindre. Tout va dans le sens d'une déperdition d'énergie. Comme une lampe de poche que vous allumez, que vous n'éteignez pas, vous savez qu'un jour elle va s'éteindre. C'est ça le principe, le second principe de la thermodynamique. C'est que tout va dans le sens de l'usure et va dans le sens de la mort. C'est le principe de la corruption. D'accord? On part de quelque chose qui est dans l'ordre et on va dans le sens du désordre. Vous devez tout le temps remettre de l'ordre dans votre maison. Vous devez tout le temps passer la poussière. C'est le second principe de la thermodynamique. Si vous ne faites rien, les choses vont se dégrader. Vous voyez? Il n'y a pas de neutralité. Il faut toujours se battre. Il faut toujours remonter la pente. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que la création a été soumise à la vanité. Mais la nouvelle création, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, c'est différent. C'est un autre principe. C'est le principe de la résurrection. C'est le principe de la vie. Amen. Et la création soupire après cette révélation. Et lorsque on est dans cette dimension de la vie et de la résurrection, eh bien, il y a des signes du royaume, des guérisons, des miracles, des choses que Dieu fait de manière miraculeuse qui sont des signes du royaume et qui nous, entre deux épreuves, n'est-ce pas, entre deux sommets de montagne, il y a des vallées, et entre deux vallées, il y a des sommets où on est transformé de gloire en gloire, on voit la gloire de Dieu, et on a ces aperçus du ciel à certains moments que Dieu permet pour nous maintenir dans cette espérance qui est vivante. L'espérance, elle est vivante parce qu'on vit de cette vie de l'esprit à l'intérieur. Amen. Et la création dans son ensemble, elle soupire après ça. Ok? Voilà un petit peu ce que Paul veut dire ici. Bien plus, Or, nous savons que, verset 22, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffle les douleurs de l'enfantement. bien plus nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. C'est-à-dire qu'il y a des douleurs de l'enfantement, il y a un soupir, et tout ça, ça va se traduire dans les versets suivants par l'intercession et la prière. D'accord? Comment est-ce que vous allez résoudre la tension entre le déjà et le pas encore? C'est-à-dire, d'un côté, vous savez que vous êtes sauvé en Jésus-Christ, vos péchés sont pardonnés, vous avez la loi de l'esprit de vie qui marche en vous, vous avez la victoire sur le péché, donc tout va très bien, Madame la Marquise. Et puis d'un autre côté, il y a toute cette souffrance, il y a toutes les choses qui ne vont pas autour de nous, il y a tout ce péché qui nous entoure, il y a cette création qui soupire, et puis vous attendez le salut complet final, vous êtes sauvé en espérance. Comment vous allez résoudre cette tension entre le déjà et le pas encore? Par la prière.
Par la prière, l'évangélisation.
La prière, l'évangélisation. C'est-à-dire que l'esprit en nous soupire et a cette prière. Ouais. D'accord? Pour que Dieu agisse, pour que Dieu intervienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous comprenez? Alors, dans cette prière, bien sûr, il y a la prière pour le résultat final. Mais déjà maintenant, il y a des signes du royaume. D'accord? Déjà maintenant, Dieu veut agir. Dieu veut manifester sa gloire. Et on peut voir des moments ou des situations ou des lieux géographiques où la gloire de Dieu se manifeste. Et on peut dire en quelque sorte, c'est le ciel sur la terre. Ça restera limité dans le temps. Ça restera limité géographiquement. Mais c'est des signes du royaume. Amen? La victoire finale, elle arrivera au retour du Seigneur quand on aura le nouveau corps de résurrection. Vous suivez? Mais les gens qui nous entourent, ils ont besoin de ces signes du royaume pour que leur foi soit fondée sur la puissance de Dieu et non pas sur les discours personnels de la sagesse. Amen. Car c'est en espérance que nous avons été sauvés. Là, on est vraiment au bout de notre heure. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, comme disait Pierre dans sa première épître, chapitre 1, nous ne voyons pas encore, mais nous nous réjouissons d'une joie. Vous ne l'avez pas encore vue, et pourtant vous l'aimez, voyez? Si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Rappelez-vous Romains chapitre 5, l'épreuve, la persévérance, la foi, d'accord? Et puis c'est là qu'il va parler au verset 26 de l'intercession par l'Esprit, dont on parlera la prochaine fois. Mais pour terminer, on va lire Romains chapitre 5, où vous avez le parallèle, si vous voulez. Bien plus, nous nous glorifions même des tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance, la persévérance une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Et voyez comment ce chapitre 5 et ce chapitre 8 se marient parfaitement. Et nous donne la perspective de la gloire de Dieu. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Que Dieu vous bénisse. Amen.